des écrivains, une émission proposée par Christophe Onodibio.
Bonjour, il est 17h et c'est le temps des écrivains, le magazine littéraire de France Culture. Cette semaine, un plateau exceptionnel puisque nous recevons un grand d'Espagne, le très grand d'Espagne, Javier Cercas, l'auteur des Soldats de Salamine et de l'Imposteur, qui revient en France avec un nouveau roman au titre énigmatique, Le Monarque des Ombres. Bonjour Javier Cercas.
Bonjour.
Avec lui, deux écrivains français passionnés de littérature et d'histoire, et ça va être notre sujet aujourd'hui, le lien entre les deux. D'abord Clara Dupont-Monod qui va nous emmener au XIIe siècle chez Aliénor d'Aquitaine. Bonjour Clara Dupont-Monod.
Bonjour Christophe.
Et Adrien Bosque qui nous embarque lui à bord du capitaine Paul Lemaire aux côtés de quelques célébrités qui fuient la France de Vichy. Bonjour Adrien Bosque.
Bonjour Christophe.
Alors Javier Cercas, vous publiez Le Monarque des Ombres, c'est chez Actes Sud et c'est traduit de l'espagnol par Alexander Krujicic avec la collaboration de Karine Louédon. Je cite toujours les traducteurs, c'est important. C'est votre nouveau livre après L'Imposteur qui était paru en France il y a 2 ans et qui nous racontait l'histoire vraie d'Enric Marco, figure charismatique du syndicalisme catalan, qui s'était fait passer pour résistant et survivant des camps de la mort, alors que non seulement il ne les avait jamais connus, mais il était allé travailler volontairement en Allemagne pendant la guerre. Avant, il y avait eu les soldats de Salamine, qui démontaient les rouages de la guerre civile espagnole, comme Anatomie d'un instant, autre livre constitué minute par minute ou presque, la tentative de coup d'état du colonel Tejero, le 23 février 1981, ce qu'on appelle le golpe en Espagne. Aujourd'hui, vous vous attaquez à votre propre famille, mieux au héros officiel, c'est vous qui le dites, de votre famille, Manuel Mena, mort au combat à 19 ans pendant la guerre civile espagnole lors de la terrible bataille de l'Ebre le 21 septembre 1938. Mais voilà, pas mort dans le bon uniforme puisque Manuel Mena était falangiste, organisation nationaliste, paramilitaire, d'inspiration fasciste, hein, c'est comme ça qu'on l'a défini.
Oui, oui.
Voilà, fondé en 1933 par Primo de Rivera et qui a été siphonné par Franco. C'est-à-dire que les falangistes, pas exactement les franquistes. En fait, il a absorbé le mouvement, Franco.
Oui, absolument. Le falangisme, c'était la forme du fascisme en Espagne, la version du fascisme en Espagne. Et ce que Franco a fait, c'était alors absorber cette organisation. Et quand il était intéressant pour lui d'être fasciste, il a été fasciste. Quand il a été intéressant pour lui, c'est d'être fasciste. Il a cessé d'être fasciste et devenu un dictateur, disons, allié des États-Unis et tout ça. Non? Le protagoniste de ce livre, que c'est pour moi, c'était toujours le symbole de l'adhésion de ma famille au franquisme, n'était pas exactement un franquiste, ouais. Était un phalangiste.
Oui, parce que souvent on fait le raccourci en France, c'est vrai, on dit son grand-oncle franquiste, au fond, voilà, c'était phalangiste. Je voulais juste rappeler ça. Alors, ce phalangisme entendait offrir à l'Espagne, face au soleil, une aube nouvelle. Je cite les paroles de l'hymne Cara al Sol, qui est l'hymne phalangiste. Hein,
oui, c'est vrai.
Et vous avez déclaré, Javier Cercas, avoir rougi de honte pendant des années, vous l'écrivez hein, d'ailleurs dans le livre, à l'évocation de cette figure étrange hein, de ce grand-oncle. Apprendre à vivre avec me paraissait déjà suffisamment compliqué, donc écrire était alors de l'ordre de l'impossible. Pourtant, vous l'avez fait. Qu'est-ce qui vous a décidé finalement à écrire ce livre aujourd'hui? Quels sont les barrages qui ont sauté et qui vous ont permis de l'écrire ce livre?
Bon, je dis que la meilleure réponse à ça, c'est dans le livre.
D'accord. Parce que mais ça, je suis sûr que les auditeurs le liront.
Non, parce que voilà. Non, je veux dire que...
Si tout le monde me fait ça, ça va être formidable.
Mais ça, c'est la vérité. Hein, parce que dans le livre, il y a une histoire, une série d'histoires, disons, sur la guerre, et sur ces personnages, sur ma famille et sur mes petits villages, qui est un peu, disons, le microcosme de l'Espagne.
En Extrémadure.
En Extrémadure, si, oui, la part probablement plus pauvre de l'Espagne. Mais aussi, il y a le récit du processus du roman. Alors, de mes doutes, de mes perplexités, de mes voyages à cette petite village avec un ami pour trouver, etc. Ouais. Mais oui, il y a des raisons pourquoi... J'ai compris une chose que c'est essentiel pour moi. Je crois que ce livre parle de le pire héritage que nous avons. C'est-à-dire, nous avons un bon héritage, nous tous. Nous
dans
avons...
les familles, vous dites, bon, voilà.
Oui, personnellement, non et collectivement aussi. Un bon héritage et un mauvais héritage. Et nous savons très bien que faire avec le bon héritage, mais nous ne savons pas que faire avec les mauvais héritages. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? On les édulcore, on les cache, on invente un autre héritage comme faisait Enric Marco, le protagoniste de l'Imposteur, qui avait inventé une vie romantique, héroïque, tout ça, pour cacher sa vraie histoire. Finalement, je crois que ce qu'il faut faire, c'est pour commencer, le connaître. cet héritage. On ne le connaît pas.
Et ça, il fallait écrire pour le connaître. Bon, voilà. Enquêter.
Oui, exactement, le connaître et après le comprendre. Et comprendre ne veut pas dire justifier. Comprendre veut dire exactement le contraire. C'est exactement. Donner les instruments pour ne répéter les mêmes erreurs.
Clara Dupont-Monod, on connaît votre tropisme médiéval, puisqu'on vous doit la folie du roi Marc, qui mettait en scène le mari oublié d'Iseut, dans le mythe de Tristan et Iseut, la passion selon Juette, qui décrivait le combat de Yvette de Huy, une femme du XIIe siècle qui refusait les dictats d'un monde où les femmes n'avaient pas leur mot à dire du tout, face à l'église, leur mari, enfin rien quoi, c'était le silence total. Il y a eu aussi Le roi disait que j'étais diable, sur Aliénor d'Aquitaine et son union avec Louis VII. Elle revient, Aliénor, dans La Révolte, c'est aux éditions Stock. Elle est racontée par son fils, Richard Cœur de Lion. Pourquoi ? Parce qu'elle les a convaincus de renverser leur père, Henri de Plantagenet. La rumeur la disait horrible, putain, manipulatrice, sorcière, Aliénor. Vous la mettez en scène sous les atours d'une femme de tête qui veut se venger. Il fallait la faire revenir pour assister à cette vengeance, Clara Dupont-Monod ?
Oui, alors je trouve que la vengeance d'une femme, déjà, c'est un thème littéraire qui a assez d'allure.
C'est une nouvelle de Barbet d'Aurevilly,
exactement,
dans Le Diabolique.
Exactement, ouais. La vengeance d'une femme. Ça a pas mal d'allure. Le cinéma et la littérature, vous l'avez dit Christophe, s'en sont largement emparés. Et ensuite, au niveau chronologique, j'ai été stupéfaite. J'ai découvert juste la vie d'Aliénor. Vous citiez Le roi disait que j'étais diable. C'est le temps du premier mariage avec le roi de France où en réalité, elle s'ennuie. Elle a, pour faire court, entre 13 et 30 ans. Elle ne donne que deux filles à ce roi de France avec lequel elle refuse de coucher, visiblement, alors que lui était perdu d'amour pour elle. Et puis moi, je la laissais dans ce premier volume. Elle quittait le roi de France, ça porte un nom, avec l'aval de l'église.
Elle annulait son mariage.
Ouais. Elle annulait son mariage avec l'imprimatur des autorités cléricales, ce qui était quand même pas rien. Et puis, voilà qu'elle jette son dévolu sur un jeune homme roux, trapu, de 11 ans plus jeune qu'elle. Donc ça fait d'Aliénor la première cougar de notre histoire française. Mais il y a dû en avoir avant dans l'Antiquité, mais en tout cas de celle que je connaissais. Et comme c'est quelqu'un de pouvoir et qui profondément aime ça, ce qui aujourd'hui, c'est plus compliqué à assumer pour une femme. C'est difficile pour une femme d'assumer qu'on adore le pouvoir. Il se trouve qu'en plus, ça n'est pas mon cas. Donc en plus, les rouages m'intéressaient de cet état d'esprit. Et elle veut juste vivre cette passion-là. Et elle sera déçue. Et du coup, en 1173, elle convoque ses trois fils, qui sont adolescents, et elle leur dit « Venez les enfants, renversons papa ». Et ils répondent « Mais quelle bonne idée ». Juste, je précise qu'elle a eu 8 enfants avec le Plantagenet. Elle les enterrera tous, ses enfants, sauf le dernier, que par ailleurs elle n'aimait pas, qu'elle a eu assez tard, à 42 ans, qui sera Jean sans terre, le fameux roi de Robin des Bois. Elle le trouvait bas de plafond et caractériel. Mais c'est quand même une femme de tête. Je trouve ça assez extraordinaire de cette femme debout. Et à l'heure de MeToo, de l'affaire Harvey Weinstein, voici une femme debout qui dit non. Il faut beaucoup d'audace et de chagrin pour dire non à un moment. À la fois contre le groupe, contre son époque, contre sa classe sociale, contre ses pairs. Et je trouvais que c'était un exemple magnifique de refus.
Donc il fallait la faire revenir. Un deuxième livre où... Mais cette fois racontée par son fils.
Oui, j'ai tenu à ce point de vue de Richard Cœur de Lion parce que je crois dans le fond qu'il l'aime autant que je l'aime, donc ça m'aidait. Et puis ça me permettait d'aborder des thèmes assez plus intemporels que le Moyen-Âge, comme par exemple l'amour que l'on peut avoir pour sa mère ou son père, la colère. Et puis, du point de vue d'Aliénor, la difficulté aussi d'être parent. Aliénor, à un moment, elle parle et elle dit « Mais où sont les gens qui s'endorment le soir avec la certitude d'avoir été de bons parents, qui est l'apprentissage de l'imperfection. »
Alors ça, on en parlera parce que justement, vous lui faites dire ça. Comment, quelle liberté vous avez prise. On y reviendra, on va creuser le sujet. Adrien Bosc, qu'on vous avait laissé avec Constellation, Grand Prix du roman de l'Académie française. C'était il y a 2 ans, il y a 3 ans.
Il y a 4 ans
déjà. Le temps passe très très vite. Vous étiez venu d'ailleurs dans cette émission à nous en parler. Constellation racontait l'accident aérien qui avait coûté la vie, entre autres, à Marcel Cerdan en 1949. Cette fois, ce n'est pas dans la carlingue d'un avion que vous nous emmenez, mais à bord d'un cargo quelques années avant, en 1941. Il s'appelle le capitaine Paul Lemerle. Il quitte Marseille pour la Martinique. Qui est à son bord, à la fois bon, les réprouvés de la France de Vichy, les immigrés, des républicains espagnols en exil, les juifs, les apatrides, et parmi eux, un petit lot, c'est ce que je disais en introduction, de célébrités du monde culturel, André Breton, Claude Lévi-Strauss, Wilfredo Lam, Victor Serge, tous fuient la barbarie nazie pour un ailleurs moins bas de plafond, pour reprendre l'expression de
Clara Dupont-Monod, moins dangereux surtout, et c'est cette traversée que vous nous racontez avec un luxe de détails qui nous permettent de comprendre ce que se disaient peut-être Lévi-Strauss et André Breton pendant le voyage, comment ils ont fait connaissance, qu'est-ce que ce voyage leur a appris. Vous nous permettez d'approcher aussi au plus près de la sensibilité d'artistes aussi différents que Germaine Krull et Wilfried Olam que je citais. Alors après La Voix des airs, La Voix des mers, comment cette histoire s'est mise à vous passionner, Adrien Bosque? On a l'impression qu'à chaque fois le transport compte beaucoup, le motif de voyager ensemble, que ce soit pour la mort ou pour essayer de trouver un avenir meilleur.
Oui, c'est au centre d'une forme de projet, en tout cas de plusieurs livres, alors même si il me semble qu'un roman ne doit pas arriver avec son mode d'emploi pour le lecteur et qu'il ne s'agit pas de l'inscrire dans une continuité ou d'expliquer en quoi le motif de répétition a quelque chose de cohérent, mais sinon que les...
Ça peut l'être.
Parfois. Ça peut l'être, il me semble, mais évidemment, chaque livre a vocation à se lire isolément et dans ce temps du roman, ce temps de l'écriture et de ce huis clos, en tout cas dans le livre, huis clos historique, qui là les réunit effectivement sur ce mobile qui cabote le long des rives, puis prend la haute mer, avec en tout cas cette force qui me semble romanesque et d'image, à savoir cette fixité presque et cette immobilité de l'immensité que nous offre la mer, comme une succession de tableaux. Et pour moi, la différence entre les livres, d'adapter, un peu comme Butor essayait avec La Modification et Le Train, d'adapter quelque chose de l'écriture, d'essayer d'aller chercher ce qui pourrait être une forme, une armature narrative adaptée à l'engin. Et pour Constellation, la forme était en un sens différent et surtout traitée de ce qu'on pourrait appeler un heureux hasard des airs, ce qui serait un peu paradoxal par rapport à la fin tragique, mais ils n'en ont pas conscience de cette fin tragique. On ne la voit qu'à posteriori. Eux sont dans en 1949 et dans une période qui est une période d'immédiat après-guerre. Donc dans ce projet décroissant, si vous voulez, qui revient dans le temps, qui revient en 41 et qui sera clos un peu plus tôt encore dans un troisième livre, il n'est pas question dans ce livre du heureux hasard, mais plutôt des aléas de l'agonie. Comment on se retrouve réunis, non pas par un hasard qui a quelque chose d'une félicité, mais plutôt par la densité de l'agonie, par ce moment à Marseille où Jean Malaquais parlait à propos de Marseille de planète sans visa, où l'Europe de la culture se trouve là. Alors évidemment, vous avez cité les noms de ces intellectuels sur le bateau qu'on a retenus dans l'histoire, mais d'autres, et on le sait, sont Benjamin à Portbou, c'est Hannah Arendt, c'est évidemment cette Europe de la culture qui fuit le continent.
Merci à tous les trois d'avoir accepté cette invitation. Je disais que je vous avais réunis autour de la notion d'histoire et de littérature. On ne cesse d'ailleurs, rentrée après rentrée, de parler de la tendance de l'exo-fiction, qui serait ce genre de fiction qui ne serait pas auto-tournée vers soi, mais tournée vers l'extérieur, d'où exo, et qui se focalise sur un personnage réel, apparemment différent de l'auteur, personnage historique ou pas. On a parlé aussi parfois de factions, ce que disent les anglo-saxons, texte mêlant à la fois une technique narrative empruntée à la fiction, mais un récit qui porterait sur des faits réels. Je voudrais vous demander à tous les trois ce que vous pensez de ces catégories, et puis surtout de la question de l'invention, dans le sens où fiction, étymologiquement, la fictio, qui vient du verbe fingo, fingere, signifie d'abord façonner, mais très vite imaginer, forger de toutes pièces et même feindre, ruser. La question se pose avec vos livres, inventer ou non, comment vous avez tranché ça, Javier Cercas?
Bon, je crois que la discussion entre le roman, disons, avec fiction et le roman sans fiction, c'est une forte discussion. Il n'y a pas de discussion, ça dépend. La vraie discussion, c'est un bon roman ou un mauvais roman.
Oui, c'est ça. Je fais penser à Oscar Wilde. Hein. Il n'y a pas de roman moral ou amoral, il y a des bons romans. Et...
Exactement, exactement, c'est ça.
Alors, pour vous, ce n'est pas un débat, pour vous, en tout cas.
Absolument, ouais, ça dépend du livre. C'est-à-dire, bon, vous voyez, il y a cet Espagnol qui s'appelait Miguel de Cervantes qui nous a dit, vous pouvez faire, incroyablement espagnol, mais il est espagnol, vous pouvez faire ce que vous voulez. Ouais. Ça a été une totale révolution. C'est-à-dire, le roman, c'est le genre de la liberté. Et à ce moment-là, c'était révolutionnaire. Et aujourd'hui, c'est encore révolutionnaire. Et alors, chaque roman crée ses propres règles. C'est ça le métier de l'écrivain. Trouver les règles pour formuler la question qui pose les romans de la façon plus complexe possible. Alors, si on... Apparemment, théoriquement, on nous a dit toujours, le roman, c'est fiction. J'écris des romans sans fiction Et on m'a dit, pourquoi vous écrivez ça? Et j'ai dit, pourquoi pas? Cervantes m'a dit que je peux faire ce que je veux, je le ferai. Alors, il y a des romans où la fiction, c'est indispensable, c'est nécessaire. Et il y a des romans où ce n'est pas nécessaire. Alors, c'est ça la vraie décision. Par exemple, dans les cas de l'imposteur, pour moi, c'était absolument évident que je ne devais pas écrire un roman avec fiction. Pourquoi? Parce que cet homme qui avait inventé complètement sa vie était une fiction ambulante, une mensonge
donc,
ambulante.
Pas besoin de redoubler.
Exactement, voilà. C'était redondant, c'est écrire une autre fiction. Dans ces cas, c'est un peu différent. Dans les cas de Monarque des Ombres, il y a un peu de fiction, très peu. Mais je devais rester fidèle à l'histoire. Pourquoi? Parce que c'était une histoire très personnelle. C'est l'histoire de l'oncle de ma mère. C'est l'histoire, comme vous disiez, de le héros officiel de ma famille. Je voulais parler de, à travers ma famille, à travers moi-même, de l'héritage, de mauvais héritage de violence que nous avons tous. Alors, c'était nécessaire de rester très fidèle.
Et néanmoins, on rentrera dans le détail, mais il y a deux narrateurs. Hein, vous avez dédoublé, voilà.
La solution que j'ai trouvée pour raconter
voilà,
ça.
Voilà, on en parlera. Qu'est-ce que vous pensez de ces distinctions que tout le monde fait, de ce besoin d'étiqueter, par rapport à ce que dit Javier Cercas, on s'en fiche, c'est la liberté totale qui compte. Le Cervantes, d'ailleurs, peut être un bon patron pour cette émission, peut-être.
Il me semble que c'est surtout aussi un rapport au vide et au blanc. Le romancier, il a un rapport particulier avec le principe du vide. Et je trouve que dans le lien entre fiction et histoire, le romancier se nourrit du vide, là où l'historien cauchemarde sur le vide. C'est-à-dire que nous, romanciers, quand nous avons une portion donnée de l'histoire et que nous décidons de nous bagarrer avec elle et de l'épaissir et de lui donner cette chair-là, nous ciblons d'abord les blancs. À quel moment, moi, je décide que tel personnage ressentirait ça ou ça ou ça? C'est le Albert Camus, la petite séquence d'Albert Camus de Adrien Bosque dans Capitaine, où Albert Camus fume une cigarette au balcon et Adrien Bosque lui prête des pensées. C'est Javier Cercas avec Manuel Mena, où vous lui prêtez des pensées tout au long du livre. C'est Aliénor ou Richard Cœur de Lion qui, à ce moment-là, qui se dit « j'adorerais que ma mère me haïsse autant qu'elle hait mon père, parce qu'ainsi j'occuperais ses pensées tout entières. » Donc à chaque fois, ce que je trouve très intéressant, c'est cette complémentarité en réalité entre le travail scientifique et l'imaginaire, complémentarité de tout temps entre la science et l'imagination. Et là, je trouve vraiment qu'elle prend sa pleine articulation dans le sens où le romancier se saisit des vides, là les où blancs. Ça fait des cheveux blancs à l'historien.
Très bien, Adrien Bosque.
Je suis assez d'accord avec cette idée, en tout cas qu'on... On vient peut-être dans ce qui pourrait être un point aveugle, ce qui pourrait être, moi j'ai cette image en tout cas de pour cette traversée, pour ce moment sans image, si vous voulez, ce moment aveugle, ce point aveugle dans l'histoire, que là, le romancier peut se glisser, mais avec cette particularité en tout cas de ce qu'on peut appeler roman sans fiction, et je suis entièrement d'accord sur l'idée que finalement de roman, si on s'en empare et de ce genre-là qu'est le roman, c'est aussi... Ce qu'il offre de malléable, ce qu'il offre de liberté, et c'est bien ce qui nous réunit, je crois, c'est que le roman offre cette liberté, non pas une liberté, et là j'y viens pour le sans-fiction, une liberté qui passerait outre la réalité et qui passerait outre la véracité des faits. Et il y a cette phrase que je trouve assez belle de Janet Malcolm, alors ça a trait plutôt au journalisme, dans Le Journaliste et l'Assassin, et elle dit... En gros, l'écrivain de fiction est propriétaire de sa maison, il l'a construite, il peut la détruire s'il le souhaite. L'écrivain de non-fiction est locataire et devra la rendre en l'état. En tout cas, s'il veut récupérer sa caution.
C'est ça. Et c'est important. Qu'est-ce que la caution? Dans le cas de la littérature.
Oui, je suis d'accord complètement avec ce qu'a dit Clara et aussi Adrien. C'est-à-dire, ce que je vois dans les romans de Clara et d'Adrien, c'est le fait que quand l'histoire ne peut pas arriver, arrive le roman.
C'est ça.
C'est exactement ça. C'est-à-dire où l'historien ne doit pas arriver parce qu'il y a une obscurité. Alors vient la fiction.
Oui.
À partir de la réalité, c'est-à-dire à partir de l'histoire.
Des fondations de la maison.
Pour illuminer ça. Pour dire ça aurait peut-être comme ça.
Et le piège, le vrai piège, je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi, mais c'est l'idée de la véracité. Adrien en a parlé un peu. C'est terrible pour un romancier, quand vous écrivez, en tout cas pour mon cas sur le Moyen-Âge, je m'interdis d'aller voir les lieux qui ont été conservés, parce que c'est la meilleure façon de court-circuiter complètement mon, entre guillemets, inspiration. Si j'ai envie d'écrire « Aliénor posa sa fourchette », sur la table, et que je me dis « zut, il n'y a pas de fourchette au Moyen-Âge », il faut que je puisse me dire « ça n'est pas grave ». elle pourra quand même poser sa fourchette.
On continue avec vous trois, Clara Dupont-Mono, Adrien Bosque et Javier Cercas. On commence par votre choix musical, Javier Cercas, Like a Rolling Stone de Bob Dylan.
Le temps des écrivains, Christophe Onodibio.
Once upon a time you dressed so fine, threw the bumps of dime in your prime. Then you, people call, say beware doll, you're bound to fall, you thought they were all kidding you. You used to laugh about everybody that was hanging out. Now you don't talk so loud. Now you don't seem so proud about having to be scrounging your next
Like a Rolling Stone, Bob Dylan, c'est le choix de Javier Cercas qui publie chez Actes Sud Le Monarque des Ombres. Pourquoi ce choix musical?
C'est complètement anecdotique. Dans mes romans, souvent il y a de la musique. Ouais. Mais dans ce roman, il y a seulement un moment où un personnage qui s'appelle Javier Cercas, et que c'est un peu moi-même, et aussi David Trebach, c'est un ami, c'est le directeur du Soldat de Salamine.
Réalisateur,
ouais. Excusez-moi mon français. Oui. Voilà. Bon, alors ils vont dans une sorte de road movie ou quelque chose comme ça. Donc ils vont avec la voiture.
Ils partent en voiture pour aller dans le village d'Estrémadure.
Où je suis né, voilà. Oui, un peu le protagoniste du livre. Et aussi, ils vont trouver ce qu'ils pensent qui est le dernier, ce que j'ai pensé à ce moment, que c'était le dernier témoin vivant de la vie du protagoniste. Alors, il parle de beaucoup de choses, il parle de peinture, il parle des choses personnelles, et il y a tout le temps, si vous vous souvenez, à la radio, une musique qu'il dit, le narrateur, il dit, je crois que ça, c'est Bob Dylan, ou un imitateur de Bob Dylan, ou quelque chose comme ça. Et c'est ça, c'est le seul moment où il y a de la musique dans le livre.
Alors, Javier Cercas, ce monarque des ombres, alors, on en parlera, évidemment, le titre fait référence à un personnage homérique,
oui.
Achille, mais on en parlera, c'est pas le sujet, enfin c'est peut-être le sujet d'ailleurs, Achille et Ulysse, et savoir est-ce qu'on vit, est-ce qu'on meurt pour rien, est-ce qu'il faut être un héros avec une vie courte ou un écrivain avec une vie longue, peut-être héroïque ou pas. En tout cas, le Monarque des Ombres raconte comment Javier Cercas et un autre narrateur, et c'est là-dessus qu'on va commencer, décide d'écrire sur le héros officiel de la famille de Javier Cercas. Il s'appelait Manuel Mena, il est mort au combat à 19 ans pendant la bataille de l'Ebre, donc en pleine guerre civile espagnole. Mais il n'était pas républicain espagnol, il était phalangiste. Donc évidemment, quand on est un écrivain de gauche, hein, c'est ce que vous dites, plutôt de gauche d'ailleurs, c'est comme ça que vous définissez.
Je suis de gauche, bon, mais voilà. Je crois à la démocratie.
C'est ça.
Et le coup d'État de Franco n'a pas été exemplaire de ce point de vue, disons.
Voilà. Donc, c'est un héros embarrassant, hein. En tout cas, c'est le héros officiel, c'est l'expression que vous utilisez, de votre famille. Pendant très très longtemps, vous avez voulu écrire sur Manuel Mena en vous disant que non, c'était pas possible, parce que rien que d'entendre son nom vous faisait rougir de honte, hein, c'est aussi l'expression que vous utilisez dans les premières pages du livre. Et finalement, vous vous lancez dans cette enquête, alors avec David Trueba, vous en parlez, donc le réalisateur, que sa femme vient de quitter pour un acteur célèbre, et on a droit à cette réplique absolument formidable, tu peux me dire putain ce que Viggo Mortensen a de plus que moi. Voilà, c'est là qu'il y a cette... Enfin, c'est peut-être le seul point d'humour, peut-être, de ce livre.
Un peu plus.
Il y a d'autres, je dirais. Parce que dans ce livre, vous ne nous épargnez aucun de vos doutes en tant qu'écrivain. Comment raconter l'histoire de ce héros officiel familial phalangiste, hein, il faisait partie de la phalange. Aucun micro-combat aussi de ces batailles auxquelles Manuel Mena a participé. Vous remontez côte après côte, nid de mitrailleuse après nid de mitrailleuse, ces régions où ont lieu ces combats. À la recherche de la raison raison d'être de ce fantôme familial que vous ne connaissiez jusque-là qu'en photo. Et je vous cite, corps d'enfant dans un costume d'homme. En fait, c'est sa tenue de sortie des tirailleurs d'Ifni, parce qu'il appartenait aux tirailleurs d'Ifni. Alors je voudrais qu'on vous entende juste, Javier Cercas, avant d'en parler, lire un petit extrait en français. Donc on vous remercie d'ailleurs d'oser.
On raconte que Manuel Mena répondait à sa mère qu'il n'avait d'autre choix que de partir à la guerre. Qu'il ne pouvait pas se cacher chez lui, tandis que les autres risquaient leur vie sur le front. Qu'il devait se montrer digne et à la hauteur des circonstances et ne se dérobant jamais. Qu'il allait les défendre, elle, ses sœurs, ses frères, ses cousins. Qu'il ne ferait que ce que les autres faisaient déjà. Lutter pour ce qui était juste, pour sa famille, pour sa patrie et pour Dieu. On raconte qu'il lui disait « Ne t'inquiète pas, maman. Si je reviens, je reviendrai la tête haute. Si je ne reviens pas, ton fils aura donné sa vie pour la patrie. Il n'y a rien de plus grand. Et si jamais je meurs, concluait-il, tu recevras une bonne pension et tu n'auras plus besoin de t'inquiéter de rien. » Manuel Mena disait tout cela à sa mère, mais la phrase qu'il lui répéta plus souvent n'était pas destinée à la consoler par anticipation, mais une prière. « Mère, lui disait-il, si je meurs, je te ne demande qu'une chose, que personne ne te voie pleurer. »
Merci, Javier Cercas.
Voilà. C'est terrible. Bon.
Dans la traduction, voilà, de chez Actes Sud. Vous avez des mots assez doux, en fait, pour lui. Cet homme qui vous faisait rougir de honte, finalement, il a l'air d'un jeune homme tout à fait exemplaire.
Assez dur, les mots. Non, pour moi, c'était simplement le symbole de le pire héritage de ma famille. C'était tout. C'est-à-dire, ma famille avait été franquiste, toute ma famille. Je ne me sens pas fier de ça, mais bon. Et aussi, lui était le symbole, mais pas seulement ça, le symbole aussi de le pire héritage de mon pays, qui c'est la guerre civile.
Ça a été une chose terrible. Quand on l'entend comme ça, dire adieu à sa mère, dire
qu'il bon,
va...
Mais bon, ce que j'ai découvert, c'est qu'il était une personne. Oui. Permettez-moi, pensez-vous à la France, à la collaboration. En fascisme français, il y avait un fascisme français. Ça, c'est votre héritage aussi. Mmh. Qu'est-ce qu'on fait avec cet héritage? Non, on le cache, comme on fait pendant beaucoup d'années. Je me souviens toujours, j'ai raconté beaucoup de fois ces jours que le général de Gaulle, après la guerre, disait « Les Français n'ont pas besoin de savoir la vérité ». Alors, on a caché complètement ça. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? J'ai finalement, ce que j'ai trouvé dans ces enfants, parce qu'il était 17 ans quand il est allé à la guerre, 19 quand il est mort, qu'il était un jeune homme et qu'il y a, c'est la chose plus importante, qu'il y a des bonnes personnes qui peuvent faire des choses atroces. Mais si tu penses, Christophe, si nous pensons aux héros,
Au héros, exactement.
Ouais. Qu'il y a, les fascistes sont toujours des gens terribles, sont des assassins, sont toujours des. C'est-à-dire, on a oublié complètement, on a effacé complètement, on a édulcoré le fascisme. Ouais. On a oublié que le fascisme était très attirant. Ouais. Pour beaucoup de gens, spécialement pour les jeunes gens.
Et c'est la démarche justement de ce livre, en dehors justement de ce que vous nous avez dit tout à l'heure, c'est aussi l'histoire d'un livre qui est en train de s'écrire, on vous voit, je veux dire, au travail. Mais en dehors de cet aspect-là, formel, enfin qui n'est pas qu'une question de forme d'ailleurs, mais la démarche du livre, c'est aussi historiquement de rappeler que le fascisme a été attirant pour des jeunes gens d'Estrémadure, par exemple, ou de, j'en sais rien,
de la
Bourgogne,
France, de Paris,
ou de Bourgogne,
de l'Allemagne, voilà, de partout, partout le monde.
C'est ça aussi la démarche que vous poursuivez, non, comme écrivain.
Non, c'est ça que j'ai découvert. Et qu'aujourd'hui, on est en train de répéter le même erreur que les années 30. Si vous lisez, par exemple, des discours qu'il faisait José Antonio Primo de Rivera, qui était notre Mussolini, disons, non,
le grand... Le fondateur de la phalange.
Le fondateur de la phalange. Si on lit ça, je les ai... écrit, ils sont dans ce livre parce que Manuel Mena pouvait les écouter. J'en suis sûr, il les avait écoutés. Il était très jeune, 17 ans, 16 ans. Ce sont des discours absolument attirants. Ce sont des discours, on a oublié que le fascisme était, on disait qu'il était anticapitaliste, qu'il était anti-système, qu'il était jeune, et brillant et tout ça, non? On a retourné à tout ça. C'est-à-dire, c'est qu'aujourd'hui, on dit le national-populisme, c'est pour moi une masque light, un peu light, on verra, de ce qu'à ce moment-là, on appelait le totalitarisme ou le fascisme.
Mais l'écrivain, justement, Javier Cercas, ça c'est le citoyen Javier Cercas qu'on entend s'exprimer, l'écrivain là-dedans, la démarche que vous poursuivez, puisque je pars quand même du début, les premières pages disent « je rougissais de honte à l'évocation de Manuel Mena, de ce héros encombrant, enfin, en tout cas encombrant pour vous. Oui. » Le fait d'oser enfin se dire je vais faire le livre, et on le comprend en lisant le rôle de la mère, etc., qui a été très très beau passage ici que vous venez de lire. La démarche, la raison d'être de ce livre, non pas le mode d'emploi, mais la raison d'être, quelle était-elle justement ?
Comprendre, comme toujours. Bon, pour commencer, les citoyens, ils veulent comprendre, comprendre tout. Et les pires choses que nous avons,
ne pas juger,
non ? Comprendre ne veut pas dire justifier, c'est complètement différent. Et c'est exactement le contraire.
Comprendre comment un jeune homme, qui plus est de votre famille, avait pu...
Un jeune homme qui n'était pas riche, qui était intelligent, qui était le premier de la famille qu'il y a eu. Mon petit village était dans un lieu très pauvre. Et cette famille était pauvre. Et cet enfant était... Parce que c'était un enfant, ce sont les enfants qui font la guerre. À ce moment-là, et toujours, et aujourd'hui aussi, ce sont les adultes qui les envoient à la guerre. Ok, cet enfant, il était le premier de la famille qui étudiait, il était un intellectuel, le premier presque du village, il était complètement sensible à ça. Il pensait qu'il allait, comme tous les enfants, il pensait qu'il allait à sauver la famille, la patrie, vous avez la
on a cité,
oui,
le passage.
Il allait à l'abattoir, en fait.
Sur le dispositif que vous avez choisi, donc je le rappelle, il y a deux narrateurs. Il y a le narrateur qui reconstruit l'histoire de Manuel Mena, de votre famille, comme un historien. D'ailleurs, il parle avec un certain mépris des littérateurs, c'est le mot que vous utilisez, qui invente. Pour lui, c'est absolument méprisable. Et puis, il y a un autre qui s'appelle comme vous, Javier Cercas, et qui raconte le processus d'écriture du roman, ses peurs, ses perplexités, ses doutes, et son voyage donc avec son ami David Trouéba, qui va venir filmer en fait les entretiens qu'il a avec les derniers témoins de cette époque. Pourquoi fallait-il ce dispositif et dédoubler justement la narration?
Ça a été essentiel. Quand j'ai trouvé ce dispositif, j'ai dit « Ah, ça c'est le roman ». Je ne sais pas quand je l'ai trouvé. Je crois au fur et à mesure que j'ai travaillé. Mais oui, parce que j'avais besoin d'un narrateur très froid, détaché, qui pouvait raconter avec le maximum de détails, d'exactitude, l'histoire de ma famille. Pourquoi? Parce que c'était très personnel. Trop personnel, je dirais. Et parce qu'on a ici relation avec des choses très délicates. Par exemple, seulement un exemple, la responsabilité de ma famille dans les crimes qui sont commis dans ce petit village. Comme vous savez, ça a été atroce en Espagne. Alors, ce sont des choses très délicates, très difficiles à raconter, non? Alors, j'avais besoin de cette distance, non? Et d'autre côté, j'avais besoin aussi de raconter l'histoire de l'histoire, non? Le processus, non? Et je crois que le livre, c'est le résultat du dialogue entre ces deux choses. Ces deux narrateurs qui sont les passés et les présents, l'histoire et pas la fiction, mais la littérature.
Ben oui. Non? Parlons-en, parce que justement, le Monarque des Ombres fait référence, je le disais, à un épisode de l'Odyssée, la catabase, donc la descente aux enfers d'Ulysse, qui retrouve Achille, donc le plus grand guerrier de l'Antiquité, parce qu'il y a aussi ce lien, vous disiez, entre présent et passé, mais entre réel, histoire et mythe, et légendes et textes antiques. Je vous cite Javier Cercas. J'étais, donc c'est le chant 11 auquel vous faites référence, j'étais encore sous l'effet de cette révélation quand je tombais, à la fin du chant 11, sur la seule scène de l'Odyssée où Achille apparaît. Ulysse lui rend visite dans la demeure des morts et lui dit que lui, le plus grand des héros, qui vainquit la mort grâce à sa belle mort, l'homme parfait que tout le monde admirait et qui était comme un soleil à la lumière de la vie, doit à présent être comme un monarque dans le royaume des ombres et ne pas regretter l'existence perdue. Alors Achille lui répond, c'est la traduction de Jacoté dans l'édition d'Actes Sud, « Ne cherche pas à m'adoucir la mort, ô noble Ulysse, j'aimerais mieux être sur terre domestique d'un paysan, fût-il sans patrimoine et presque sans ressources, que de régner ici, parmi ces ombres consumées. » Est-ce que c'était pour donner davantage tort, finalement, à votre grand-oncle, que vous avez convoqué cet exemple ultime, écrasant, puisqu'il n'est plus là pour vous lire, ou de signaler à votre famille, dont il était le héros officiel, comme vous dites, que cette famille aussi s'était trompée sur toute la ligne?
Non, nous avons trompé sans doute, ça s'assure. Non, mais l'idée d'Achille, c'est parce que, vous savez, je crois que le protagoniste secret, ou pas secret, de ce livre, c'est ma mère, qui m'a donné l'héritage. Non,
fin est super, parce que vous allez la retrouver, bon, sans dire, elle fait partie du voyage, à la toute fin.
Oui, voilà. Elle est la protagoniste secrète. Voilà. Elle m'a parlé pour elle, cet homme qui avait 17 ans, quand la guerre a éclaté, 19 ans, quand il est mort. Elle avait 5 ans quand la guerre a éclaté. Alors, pour elle, cet homme qui n'était pas exactement son oncle, il était presque son frère, parce qu'ils habitaient ensemble, était un héros absolu. C'était l'homme qui allait à la guerre, à sauver la famille, la patrie, la religion, toutes ces valeurs auxquelles ils croyaient. Et pour elle, c'était Achille. C'était l'héros parfait. C'était l'héros. Non. Et j'y croyais quand j'étais jeune.
Il était très gentil avec elle. avec votre mère. C'était le plus gentil.
Exactement. Pour elle, était l'homme parfait. Elle était très sympathique, et très très gentille et tout. Et quand j'étais jeune, je pensais que pour elle, qu'elle me parlait de lui, parce que Manuel Mendes était l'exemple parfait. Alors, elle voulait que j'étais comme...
Que vous lui ressembliez.
Exactement, ouais. Comme lui. Et au contraire, j'ai découvert quand j'étais grand que c'était exactement le contraire. Elle m'a parlé de lui parce qu'il n'était pas un exemple.
Pour faire le livre, en fait. C'est elle qui, au fond, vous fait faire le livre.
Ça, c'est une possibilité. Mais je crois qu'elle m'a parlé de lui comme une mère, c'est-à-dire comme contre-exemple. C'est-à-dire, elle me disait, ne fais pas comme lui.
Ne meurs pas.
Ne meurs pas, jeune. Elle fait comme Ulysse. Vous savez, j'ai lu toute ma vie, le disait l'Iliade, et j'ai découvert à mon âge que c'est curieux parce que le protagoniste de l'Iliade et le protagoniste de l'Odyssée sont exactement le contraire. Le protagoniste de l'Iliade, c'est le nom Achille, c'est un homme jeune, courageux, qui va en combat, qui meurt en combat, et qui arrive à l'immortalité de la mémoire, non? C'est l'unique immortalité, l'unique ciel de Grec, non? Oui. Et au contraire, Ulysse, c'est l'homme qui, avec son intelligence, retourne à sa maison, à la patrie, récupère sa femme et il vit longtemps. Et alors, ma mère me disait, enfant, tu dois être comme Ulysse, non? Et c'est pourquoi ce passage que tu as lu, c'est essentiel. C'est-à-dire, le seul moment où Achille, le protagoniste de l'Iliade, apparaît dans l'Odyssée, c'est ce moment où Ulysse lui dit, tu dois être ici, il le trouve dans le royaume de mort, au Hades. Et il lui dit, quand tu étais vivant, tu étais le roi des hommes, et si... Tu dois être aussi les plus admirés, les monarques des ombres. Ouais. Et Achille, dans un passage absolument émouvant, dit « Oui, c'est vrai, mais j'aurais préféré être vivant et le plus humble des hommes qu'être vivant encore et ne pas être, vous savez, ici, les monarques des ombres. » Et au fond, c'est Achille qui met... Peut-être Manuel Mena, c'était la même chose. Ouais. C'est-à-dire, Manuel Mena, c'est pour moi un symbole de tous ces jeunes gens qui vont à la guerre. Ouais. Aujourd'hui, convaincus qu'ils vont sauver le monde, avec une énorme générosité, un énorme idéalisme, tout ça, et qui découvrent finalement qu'ils ont été trompés par les adultes.
Instrumentalisés
par les adultes et par des idéologies toxiques qui promettent le paradis et qui créent finalement l'enfer. Le fascisme a été comme ça. Aujourd'hui, l'islamisme, c'est la même chose. Ils sont des enfants qui font des crimes horribles.
Voilà, de l'histoire à la littérature, finalement, la plus belle des littératures, c'est jamais loin. Clara Dupont-Monod, on continue avec vous. Juste une petite question tout à l'heure. Vous nous avez dit, si j'ai envie d'écrire Aliénor posa sa fourchette et si les fourchettes n'existent pas, je l'écris quand même.
Non, il faut que je puisse me dire, c'est différent, il faut que je puisse me dire, si Clara, tu peux, parce que c'est effectivement quand on part de l'armature chronologique qui sert un peu de tremplin de colonne vertébrale, moi en tout cas je respecte ça, c'est l'histoire avec puis le Moyen-Âge avec cette cohorte d'événements incroyables qui suffit largement comme moteur de fiction, mais ensuite tous ces petits détails, il faut que c'est très difficile de rester romancier, je trouve que c'est la chose la plus difficile quand on s'attaque à l'histoire.
Adrien Bosque, vous partagez ce que dit Clara ou...
Ce que je partage, en tout cas dans l'écriture telle qu'elle s'adapte, telle qu'elle colle d'une certaine manière à l'histoire et par cette idée de colonne vertébrale, de tuteur on pourrait dire. On pourrait dire que là le roman vient comme la plante sur le tuteur, en tout cas dresser quelque chose, le laisser debout, mais peut aller dans quelques arabesques par endroits qui sont celles peut-être des ombres, des moments indécis.
À définir pour le romancier, en fait.
Et j'aime assez cette idée. Alors, on reste dans l'idée de la maison et de ce qu'elle a de, on peut aller jusqu'à la fourchette et ce qu'on trouve dans les placards, mais j'ai quand même cette obsession par effet d'accumulation, en tout cas ce qui précède l'écriture, ce qui va être le temps de la recherche, qui me semble aussi à préserver parfois dans le livre sous une forme de dispositif, sous une forme, voilà, d'écriture qui vient s'adapter au roman. Par effet d'accumulation, d'être en capacité parfois un peu grisante ou illusoire de se dire que si demain l'un des protagonistes venait, on lui expliquerait presque comment se sont passées les choses sans le dépasser, parce que la réalité et le présent est fait de fiction. Voilà. Le présent, et je pense qu'il faut pas l'oublier, est une accumulation de fiction et de faisceaux contradictoires. On est entouré de visions et c'est ce qui m'intéresse par exemple dans une collectivité. C'est le fait qu'une même réalité est perçue par endroit, par point de vue, et donc déjà entame un processus de fiction, un processus de mensonge, et ce qui ne nous empêche pas d'aller chercher jusqu'au détail et de se dire, si demain le cuisinier du Paul Lemaire débarquait, que ses tambouilles se trouvent dans le placard à droite et non pas à gauche.
À côté des fourchettes. C'est juste revenir sur ce que disait Ravière sur la Cercas sur la liberté tout à l'heure. Il me semble que moi, je trouve que la chose la plus difficile quand on écrit un roman ancré dans l'histoire, c'est de rester libre. La liberté est une vraie conquête. Il faut avoir beaucoup de bienveillance envers soi et beaucoup de pugnacité pour décider eh bien, que les choses seront comme le romancier le veut. Si demain je veux faire rencontrer Mozart et Mussolini, il faut que je puisse me dire oui. Et c'est très, quelque part, difficile. Il y a toujours cette notion un petit peu de blasphème, de se dire à un moment, mais, ah mais non, je ne peux pas écrire ça quand même. Il n'y avait pas un donjon dans le château de Douvres. Je ne peux pas décréter qu'il y en aurait trois.
Et vous le faites.
Et voilà. Si, il faut pouvoir le faire.
Et je suis complètement d'accord. C'est-à-dire, c'est exactement la liberté. C'est-à-dire, c'est la liberté de règles externes au roman.
C'est ça.
Mais le romancier crée des règles auxquelles elle doit être complètement fidèle. Mais ce sont les règles du roman, de chaque roman. Alors oui, je suis complètement d'accord. Tarantino tue Hitler ici en France, oui. 1944, pas de problème. Si il a créé des règles, ça c'est possible.
C'est ça, chacun crée ses règles. On parle de la révolte avec vous, Clara, c'est chez Stock. On écoute votre choix musical. Vous avez choisi Strong Enough de Cher. I don't need your sympathy. There's nothing you can say or do for me. And I don't
Le temps des écrivains. Christophe Onodibio. You'll never change for no one. And I hear your reasons why. Where did you sleep last night? And was she worth it? Was she worth it? Oh, I'm strong enough.
Strong Enough de Cher, c'est le choix de Clara Dupont-Monod qui publie La Révolte, c'est aux éditions Stock. Pourquoi Strong Enough? C'est Aliénor d'Aquitaine?
Oui, c'est Aliénor d'Aquitaine, c'est très solide, très beau, c'est un chant de victoire, on bouge des épaules, on a envie de se lever, c'est, pour moi c'est la variété de la vie.
C'est très bien.
Mais c'est vrai.
Alors avec la révolte retour au Moyen-Âge, c'est donc il est question d'Aliénor d'Aquitaine, 12e siècle. À cet indomptable, vous aviez déjà consacré un roman. En 2014, c'est le titre, c'était Le roi disait que j'étais diable. La révolte fait revenir Aliénor, mais par la bouche de Richard Cœur de Lion, son fils. Je rappelle que Aliénor épousa successivement Louis VII et Henri II Plantagenet en annulant son mariage, qui était une grande, je sais pas si c'était une première d'ailleurs, mais voilà, une première. En tout cas, un fait d'armes assez exceptionnel. Et dans ce livre, Richard Cœur de Lion raconte sa mère et explique finalement le moment, les raisons qui font qu'un jour, leur mère demande à ses enfants de renverser leur père. Alors, c'est totalement mythologique, shakespearien. Game of Thrones n'a absolument rien inventé. En revanche, oui, vous, Clara, vous inventez, car vous dites à la fin du livre, il n'y a pas encore de donjon à Douvres. La phrase « relève ce qui est détruit, conserve ce qui est debout » n'est pas un serment de Richard Cœur de Lion. Le mot « croisade » n'existe pas au Moyen-Âge. Alors pourquoi ne pas utiliser des mots qui existent au Moyen-Âge ?
Parce que au moment où vous écrivez, ça vous vient comme ça. Je sais que c'est décevant comme réponse, mais souvent les romanciers, vous savez, on fait et on comprend après. Il y a quelque chose qui s'impose. J'aurais trouvé ça un petit peu, quelque part, presque un travail de thèse que de devoir respecter le vocabulaire de l'époque. Or, ça n'est pas une thèse.
Encore. Certains le font pour avoir une langue un peu patinée, un peu médiévale.
Bien sûr. Il ne s'agit pas de dire il faut faire comme ci ou comme ça, bien sûr. Mais dans mon cas, moi, si je devais respecter scrupuleusement quelque chose de l'ordre de l'époque, ça m'entravait dans ce que ça pouvait dans ce que ça pouvait m'inspirer. Il se trouve qu'Aliénor échoue, c'est aussi l'histoire d'un échec. Il se trouve qu'elle est enfermée dans une tour ensuite pendant 14 ans. C'est Richard, son fils, qui vient lui ouvrir. Il va partir en croisade et c'est encore elle, âgée de 70 ans, qui va aller l'extirper des geôles autrichiennes où il est emprisonné au retour de la croisade. Enfin, je veux dire, à un moment, cette femme-là cristallise tant les notions de colère, d'échec, de grandeur, d'absolu et de petitesse. On est là dans un registre tellement immense qu'il m'était absolument impossible de commencer à me dire « il faut que je respecte scrupuleusement ce que l'époque donne ».
C'est la fameuse phrase un peu cliché d'ailleurs qu'on attribue à Dumas, terrible dans la formulation, on peut violer l'histoire à condition de lui faire de beaux enfants.
Oui, mais je vois l'idée. Il a dit aussi l'histoire est un clou auquel j'accroche mes romans comme des tableaux. C'est exactement ça. C'est le même registre d'à un moment d'avoir cette espèce de liberté. Je conçois que ce soit agaçant. Nous, les romanciers, on est incroyablement agaçants. Notre liberté est agaçante. Si je veux 20 000 figurants sur une plaine, contrairement au cinéma, je peux. Il me suffit de deux phrases. Si je veux dire justement que Aliénor pose à sa fourchette ou que Richard Cœur de Lion parle de sa mère en des termes très précis, de décréter qu'à un moment Aliénor, sur ce registre-là, elle est furieuse. Là, elle est somme toute non, c'est faux. Elle est malheureuse. Je peux. Donc c'est vrai qu'il y a quelque chose d'un peu décalé par rapport à un travail très rigoureux d'un historien sur 30 ans. Et nous, on arrive et on dit oh ben attends, voilà comment elle est mon Aliénor. Je conçois que ça puisse être un peu énervant, mais après c'est l'éternelle et magnifique complémentarité. Encore une fois, entre histoire et roman.
En même temps, Clara Dupont-Monod, vous dites, par exemple, que le mot djihad était utilisé par Saladin. Il y a des extraits de lettres cités dans le livre qui ne sont pas inventaires. Comment vous avez travaillé ? Vous parliez de dentelle tout à l'heure, enfin de blanc. Moi, je vois une dentelle, quoi. C'est-à-dire qu'on brode autour des trous de l'histoire.
C'est exactement ça. C'est de la dentelle. C'est pour ça que vous avancez aussi lentement et avec autant de doute et de délicatesse, vous essayez. Il y a cette idée de violence que je trouve très intéressante. Et il se trouve qu'au XXIe siècle, la violence, notre violence, avance un peu maquillée, un peu hypocritement cachée. On dit « remercier quelqu'un » au lieu de « licencier ». Et du coup, le fait de cacher la violence fait que ça en décuple sa puissance. Au Moyen-Âge, la violence, inhérente à toute société, est codifiée. À partir de là, si moi, cette problématique me parle, il était important de mentionner les choses de violence qui rentrent dans ce thème-là. Donc les lettres qu'Aliénor échange avec le clergé, qui lui dit « reviens auprès de ton mari, baisse la tête, obéis-lui, tu peux pas lancer la révolte contre ton mari, c'est impensable. »
Ça rentre dedans. Et on peut pas l'inventer.
Voilà, quelque part c'est pain béni dans la problématique que je veux développer sur cette idée de violence. De la même façon, quand Richard Cœur de Lion part en croisade, qui a été un semi-échec, un semi-succès, comme on veut, le fait dans son face-à-face avec Saladin, et le fait que Saladin parle de djihad, il y a une telle résonance avec aujourd'hui que ce serait été presque dommage de ne pas le mettre. Mais ça n'est pas en gage de quelque chose.
En fait,
oui,
fois.
Ça rentre dans une logique qui devrait irriguer tout le roman.
On vous écoute, Clara Dupont-Monod, lire, puisqu'il n'y a pas de description d'Aliénor.
On ne sait même pas à quoi elle ressemblait.
Mais vous la décrivez.
Aliénor évalue les forces. Beaucoup d'Anglais, excédés, prendront les armes contre le Plantagenet. Mais une chose me chiffonne. Certes, ma mère a réussi à fédérer les grands barons, mais ils demandent des contreparties. Ils veulent des comtés, des domaines, des châteaux, sinon ils ne nous aideront pas. Même le roi d'Écosse, qui pourtant est le Plantagenet, réclame la Northumbrie dans le nord de l'Angleterre. Je sens que ma mère va accepter. Je sais bien que je devrais avoir confiance, que son intelligence stratégique l'a maintenue aux plus hautes sphères du pouvoir. Il n'empêche, ses ralliements coûtent assez cher pour m'inquiéter. Aliénor ne m'entend pas. Je la regarde aller et venir. Me saute aux yeux une différence majeure. La colère maintient ma mère, alors que celle de mon père le rabaisse. Lui, c'est une rage grotesque, éructante, qui nous fait honte. On le croirait assis dans un chaudron. Sa peau rougit, ses yeux verts s'injectent de sang. Les moines ont tout essayé. Ils ont interdit le poivre et l'oignon dans les cuisines, prescrit le suc de laitue, des infusions de renoncule et de réglisse. Rien n'y fait. Mon père se transforme en elfe vociférant. Un jour, Mercadier a dû le sangler pour l'éloigner d'un page dont il voulait arracher les joues. Et combien de fois nous l'avons vu rouler en hurlant, prêt à manger le foin sur le sol. Nos vassaux rient de nous. Mais il me faut être honnête. Quand je le vois ainsi, je ressens d'étranges caresses froides sur ma nuque, des fumées noires nourries aux excès du monde, qui enflent au triste spectacle qu'offre mon père, absorbant chacun de ses couinements qu'en cet instant je regrette et je hais, parce que j'y reconnais les miens, parce que cette furie, je la porte aussi en moi.
Merci Clara Dupont-Mono. Adrien Bosque, vous comprenez cette démarche dont parlait Clara Dupont-Mono, parce qu'au fond, il s'agit aussi d'inventer, mais sur une base reconstituée de documents réels. Comme au Moyen-Âge, il y a des lettres que Clara cite, vous avez eu accès à un certain nombre de documents autour de cette odyssée du capitaine Paul Lemerle.
Oui, le mot est juste, on passe avec Javier Cercas de l'Iliade à l'Odyssée, avec l'aide de nos Plantagenêts, mais je comprends tout à fait, Et la liberté du romancier, et je pense que c'est aussi une idée maîtresse, elle est de choisir ce qu'on exclut du roman, ce que l'on garde, de quelle manière ces éléments de brut, presque de collage, viennent servir quelque chose, en tout cas d'une logique romanesque, d'une logique de lecteur aussi, de quelque chose de l'ordre d'un pacte du roman que l'on a avec le lecteur. Et effectivement, l'enjeu était double pour le capitaine, puisque se trouve sur le bateau, si vous voulez.
Je rappelle, juste en quelques mots, donc votre livre raconte justement l'épopée, donc c'est une épopée réelle, épopée ou odyssée, donc on est en 41, évidemment Vichy règne sur la France, et un certain nombre d'intellectuels, mais pas seulement, des gens qui doivent s'inquiéter pour leur vie, qui sont en danger, beaucoup de républicains espagnols, beaucoup de juifs, et des intellectuels partent à bord de ce bateau qui va d'abord caboter avant de se diriger vers la Martinique, finir à Port-au-Prince aussi, où on les traite, où Vichy à nouveau traite ces gens de façon absolument lamentable. Et on trouve, et c'est ce qui fait le hasard, vous parliez de hasard tout à l'heure sur ce bateau, à la fois André Breton, à la fois Claude Lévi-Strauss, Wilfredo Lam, la photographe allemande Germaine Krull, sa compatriote Anna Segers, avec ses enfants, Victor Serge, l'écrivain révolutionnaire. Tous ces gens sont ensemble, j'allais dire, dans le même bateau. Et c'est ce que vous nous racontez, avec énormément de détails, mais aussi pas mal d'inventions.
Oui, pour terminer sur cette idée d'éléments bruts glissés dans le roman, de quelle manière l'écrivain qui affronte en un sens, ces personnages que sont André Breton ou Claude Lévi-Strauss, dont l'un a décrété la mort du roman, c'est pas rien pour un seul homme de dire que la marquise sortit à 5 heures et l'absurdité de la notation et de la fiction, justement. Et un autre, Lévi-Strauss, qui dans Triste Tropique, je hais les voyages et les explorateurs, et se moque du récit de voyage et de la notation, et nous arriver comme ça, tranquillement, avec un petit roman à écrire en disant je ferai fi de tout ça, de cet enjeu qui est celui qui traverse aussi l'esprit de ces deux intellectuels qui, hasard de l'histoire, ou peut-être comme si cette question était au centre aussi de leurs préoccupations, vont se retrouver sur ce bateau à dialoguer, à s'échanger des lettres que l'on a, où ils se questionnent.
Sur lesquelles vous vous êtes reposé. Le tuteur dont vous parliez, c'était
oui,
ces lettres.
Oui, mais et d'autres, les carnets de Victor Serge, des éléments de passagers anonymes. Mais au-delà de ça, ils envisagent une question très précise qui est celle du statut d'œuvre d'art du document. Et c'est le sel même presque de ce collage à l'intérieur du livre, c'est de se dire, ces passagers eux-mêmes se questionnent sur ce qui est roman, ce qui est art, ce qui est fiction. Et donc, il me paraissait improbable de ne pas reprendre leurs mots, de les contourner en les citant.
Pourquoi Adrien Bosque, justement, à la fin du livre, pourquoi dans le cadre d'un roman, mentionner justement toutes les sources, page après page, que par exemple page 176, 177, 182, 183, il s'agit d'un extrait des carnets de Victor Serge, édition Agone 2012, page 196, Martinique, Charmeuse de Serpent, André Breton, avec texte et illustration. Pourquoi finalement, comme pour faire la preuve en fait de la réalité de ce que vous écrivez, enfin c'est comme ça que moi je l'ai compris, mais...
Alors ça peut être la preuve de cette réalité, puisque la fiction qui est au cœur de ce roman et aussi l'irréalité de ce voyage. On peut se questionner sur l'absurde coïncidence, parfois sur l'invraisemblance du réel. C'est un vieux débat, on n'a pas besoin de le questionner là, mais on le sait à quel point parfois le réel est plus invraisemblable que la fiction. Mais au-delà, on parlait tout à l'heure de dispositif pour l'écriture, ce livre s'est écrit à partir du moment où le dispositif s'est fixé, de quelle manière l'engin pouvait transporter le roman. Et c'était d'abord de laisser pur ce temps du roman encadré par la recherche, mais aussi à l'intérieur, de laisser ces éléments bruts de réalité sous forme d'italique, sans les mettre en notes, si vous voulez, de bas de page, mais de dire... Ils viennent comme ça dans une esthétique du collage. On est aussi à un moment du surréalisme où l'esthétique du collage me paraissait...
Mais pourquoi dire au lecteur qu'il peut retrouver, aller retrouver le texte même? Puisque après tout, quand on a un collage de l'époque, on ne sait pas d'où viennent les différents morceaux, au fond. Enfin, les artistes ne prenaient pas la peine d'indiquer...
Ah non,
voilà.
Et pourquoi pas?
Mais j'interroge l'écrivain.
Cette liberté, si vous voulez, elle s'inscrit là. C'est une liberté presque de... Effectivement, un roman, en quoi le roman devrait sourcer, si vous voulez? En quoi le roman devrait singer l'historien? Mais à l'inverse, là, le roman m'amusait aussi parce qu'il, presque de manière typographique, venait signaler par l'italique quelque chose de l'ordre d'un brouillage entre l'écriture et la parole, l'écrit d'autrui, l'écrit du passager, et le retrouver à la fin, pouvoir s'y confronter, se dire qui parle. Parfois, évidemment, c'est très clair, c'est Victor Serge quelques instants avant qui est décrit, puis Victor Serge qui écrit à Laurette Séjourné, mais parfois c'est plus subtil lorsque le bateau est décrit par ses passagers assez rapidement, une boîte de sardines avec un mégot collé dedans, ou le capitaine pauvre merle.
Voilà.
Il faut savoir, alors c'est pas une nécessité, chacun fait ce qu'il veut, c'est la liberté du roman se situe là, on prend le roman comme genre et on y inscrit en tout cas la forme qu'on a bien voulu sculpter.
On vous écoute, Adrien Bosque, lire un extrait de Capitaine, donc dans la gueule du loup, voilà, ils arrivent à Port-au-Prince.
Dès 5h30, le soleil martyrisait le pont, une chaleur écrasante, pesante, brûlant la bâche jusqu'à changer l'abri en étuve. Ainsi, à peine couverts d'un trait de lumière, les passagers s'éveillaient et arpentaient le pont comme des revenants, hagards, l'œil perdu au loin à la recherche de l'île. On vit rassembler à l'avant du cargo un trio qu'on rêva, plaisanté entre chien et loup. André Breton, Claude Lévi-Strauss, Victor Serge. Comme ces voyageurs qui, longtemps après le départ, suivent un point fixe au large et mesurent l'avancée du voyage, ils patientaient, cherchant dans le lointain le rivage. Ils entendirent dans leur dos des bruits de pas, c'était le capitaine. Il s'approchait, une cigarette fichée au coin des lèvres, la fumée aussitôt avalée par le vent, l'air heureux, satisfait. La Martinique, la perle des Antilles et le déshonneur de la France. Ce fut comme une légende apposée au bas d'une marine. Ils le regardèrent sans répondre. Vers 7h, l'île leur apparut, une bande olivâtre, comprimée par la ligne d'horizon. Ce fut ensuite un rocher, boursouflé, enflé, à chaque nœud avalé, qui allait s'imprimant, verdoyant sur un patron aux allures de golf, une côte dessinée sur toute la largeur du bateau, comme un plan de coupe, trait pour trait. Le mont Pelé à Saint-Pierre se dressait à la manière d'une montgolfière perchée dans le ciel, auréolée d'une corolle de nuages bas, un tutu sur les hanches d'un hippopotame.
Merci Adrien Bosque pour cet extrait de Capitaine donc qui paraît chez Stock. Merci à tous les trois. Avant de nous quitter, je voulais rappeler d'ailleurs, puisque vous en parlez, Adrien Bosque, dans votre livre Capitaine, cette phrase de Sandrars, à qui on demandait toujours s'il avait vraiment pris le transsibérien. Il disait qu'importe, puisque à vous, je l'ai fait prendre. C'est ça la définition du romancier, au fond, par rapport à cette réalité dont on parlait tout à l'heure.
Il y a une autre phrase dans le livre qui presque pour moi est venue définir très exactement, en tout cas, quelque chose de la tâche du romancier, qui est celle de Glissant, qui dit « Rien n'est vrai, tout est vivant ». Et je pense que là est quelque chose d'une tâche qui est de rendre vivant.
C'est pas mal, Javier Cercas, ça vous va?
Rendre vivant, c'est vrai.
Voilà.
Oui, c'est joli.
Rendre vivant, rendre, voilà. Donc un niveau encore, voilà.
C'est pas rester vivant, voilà. C'est rendre vivant.
Voilà. Et rester vivant aussi, c'est important pour les romanciers. Merci à tous les trois. Je rappelle le titre de vos livres. Donc Adrien Bosque, Capitaine, c'est chez Stock. Clara Dupont-Monod, La Révolte, c'est chez Stock également. Et Javier Cercas, Le Monarque des Ombres. On écoute pour terminer, c'était votre choix musical, Adrien Bosque. D'ailleurs, pourquoi ce choix? Rhapsodie espagnole de Ravel.
Il se trouve que pendant l'écriture, très exactement, les rhapsodies et certaines pièces de Ravel tournaient comme ça en boucle. Et il y a quelque chose, en tout cas, d'une plainte espagnole et d'une plainte qui a trait, en tout cas, peut-être à certains de ces républicains, alors surtout des femmes qui sont sur le bateau, voilà. Puisque les hommes en sont sont arrêtés au port avant le départ.
Et ça fera plaisir à Javier Cercas, ce choix espagnol. C'est dirigé dans ce qu'on entend par Claudio Abbado. Merci à vous. Le temps des écrivains, c'est Anne-Catherine Lochard, Jean-Christophe Francis, à la technique Cédric Chateluse. Vous pouvez nous suivre et commenter sur Facebook et Twitter, podcaster pendant un an et réécouter à l'infini sur franceculture.fr, 7h avec Adrien Bosque, Clara Dupont-Mono et Javier Cercas.